Alors, si, on va enchaîner avec une autre communication de Rémi Boivin, qui a fait sa thèse en sociologie, et une thèse qui s'intitule « À l'écoute de la plaine, écologie urbaine d'une scène musicale à Marseille ». Il est actuellement à terre à l'université Paris 8. Merci.
Merci Marine. Merci à toutes et à tous. Un peu d'ambiance pour commencer cette communication. Alors pour commencer, je tiens à dire déjà que j'ai préparé une longue communication, donc je vais un peu couper au fur et à mesure, donc vous étonnez pas si c'est un peu improvisé. Voilà, et donc et je tiens aussi à dire que moi je suis pas du tout spécialiste du punk. Je travaille en fait sur la plaine avant tout et sur le rôle des musiques dans la fabrication territoriale. Et en menant mon ethnographie du lieu, j'ai été amené à rencontrer des événements et des collectifs punk, notamment Pirate Punks, comme vous pouvez le voir derrière moi et devant moi aussi, sur les sièges. Donc voilà. Rapidement, je vais faire une petite introduction avant de rentrer sur l'ethnographie d'une session punk, donc d'un concert punk à la plaine. Donc rapidement, j'ai d'abord découvert donc l'existence du collectif Pirate Punks. Je vais y venir sur qu'est-ce que c'est que ce collectif. Je l'ai rencontré donc fin 2012. J'ai commencé mon travail de terrain en 2012 et par l'identification d'affiches collées autour de la place Jean Jaurès notamment, mais également dans le centre-ville, et en découvrant un squat qui n'existe plus, qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, qui s'appelait le Tableau Noir, rue Saint-Savournin, donc pas loin de la place Jean Jaurès, de la plaine. Donc à ce moment-là, on est dans le contexte de Marseille-Provence 2013, ça aussi, ça n'a pas trop été évoqué, on est un peu en amont, en tout cas, on est dans une mouvance MP13, comme on dit. Donc j'ai commencé, on va dire, à partir de 2012, à identifier une série de regroupements particuliers sur la place Jean Jaurès, et surtout, enfin, d'abord, on va dire, à partir de la rentrée 2012, septembre, et ensuite, début 2013. Donc j'ai d'abord identifié des regroupements bien particuliers sur la place Jean Jaurès, qualifiés de repas populaires, qui étaient organisés sur une portion bien spécifique de la place publique, qui est la place Jean Jaurès, et qui était à l'initiative de membres du Tableau Noir, donc un squat installé dans le bâtiment d'une école toute proche de la place Jean Jaurès, parfois en collaboration avec Pirate Punks, un collectif investi dans l'organisation de concerts, de performances musicales et de spectacles plus largement parfois. Donc des repas de quartier dont la particularité est d'associer, je cite donc ce qu'il y a écrit sur les affiches, la soupe populaire à des concerts. Donc voilà, d'abord contexte structurel un peu de ces événements. Je savais pas encore à ce moment-là, mais il existe un lien structurel, peut-être indirect, entre plusieurs organisations. Et c'est en découvrant l'une d'entre elles que, par ricochet, j'ai appris l'existence des autres. D'abord, l'Assemblée de la Plaine, un collectif d'habitants et d'habitués de la Plaine. Ensuite, un squat, comme j'ai dit, le Tableau Noir, qui s'autodéfinit comme centre social autogéré. Et enfin, un collectif spécialisé dans l'organisation de concerts, Pirate Punks. Ces trois organisations ont en commun d'avoir été créées dans le centre-ville de Marseille et dans les environs de la Plaine, sensiblement à la même période, autour de l'été 2012. Et d'une certaine manière, l'émergence de ces trois structures a été, d'une manière ou d'une autre, voyez, stimulée par la temporalité de MP13 et de ses implications en termes de politique de la ville. C'est le contexte général de transformation urbaine et culturelle de la ville qui a produit indirectement ces initiatives. Le rejet des opérations structurantes de la ville et en cours et à venir ont conduit à la mise en place de propositions propres par ceux qui font la ville au quotidien. Donc l'année capitale approchant, là, en 2012, en plus de l'aménagement de l'espace et de l'installation d'équipements et de mobilier modernes, les décideurs politiques locaux chercheraient, selon les enquêtés que j'ai pu rencontrer, à préparer le terrain et à faire le ménage en contribuant insidieusement à tuer les espaces culturels quotidien et ces espaces de vie à la plaine, autour de la plaine. Donc voilà, je passe un peu vite, mais ces trois organisations ont également en commun de ne pas recouvrer de forme juridique spécifique, de déployer leurs activités sans autorisation ni déclaration. Le tableau noir est à part dans le sens où sa durée de vie est très éphémère. Entre fin octobre 2012 jusqu'à début avril 2013, plus précisément. Mais un autre point commun qui me semble le plus important, c'est que l'activation de ces collectifs s'est opérée dans l'optique de défendre et de mettre en pratique une réappropriation de la ville par ses habitants au travers de l'appropriation accrue, l'occupation et l'appropriation accrue de l'espace public, donc de réinvestir et de se réapproprier le territoire. Cette occupation ne se fait pas n'importe comment. D'abord, l'Assemblée de la Plaine s'est constituée suite à l'implantation de caméras de surveillance et à la fermeture, je cite, de salles de concert, bars et autres lieux de vie dans la portion environnante à la Plaine. Donc notamment, en fait, c'est l'Entropie et l'Atelier des Coups Bas. L'Entropie, donc, ces deux lieux ont subi des fermetures administratives ou des interdictions de musique amplifiée en mai et en juin 2012. Donc j'aimerais bien développer, mais j'ai pas le temps, sur l'Entropie. Mais en tout cas, l'Entropie a été un lieu très actif, très très actif, et sa fermeture produit un vide et libère un créneau. Et c'est à ce moment-là que le Haubundiz, tenu par Azem et son acolyte Fab, passe le local qui va devenir la Sale Gueule. C'est au même moment, donc à la rentrée 2012. Je ne peux pas en dire beaucoup plus par des raisons de temps. Ensuite, Pirate Punks fait mention du contexte de Marseille-Provence 2013 à l'occasion de ses premiers événements. Donc là, c'est une affiche, c'est le dos d'une affiche d'une session du 11 octobre 2012, au sein de laquelle il est précisé « C'est un concert libre et sauvage, sans autorisation, parce que cette ville a besoin d'autre chose que des événements Pompe Afrique et autres Marseille 2013 qui se profilent à l'horizon. » Avant de finir par « Contre Marseille 2013, reprenons la rue ». Donc, le collectif a été créé avant l'ouverture du tableau noir. Il existe toujours aujourd'hui, alors que le squat a été fermé, comme je l'ai dit, en avril 2013. Et moi, c'est en découvrant le tableau noir que j'ai découvert Pirate Punks. Je passe vite, parce que d'abord, j'ai fait des ethnographies, des repas de quartier tableau noir, comme vous pouvez voir sur ces photos. Voilà. Pareil, je voulais parler sur la programmation et sur l'usage des étiquettes et des catégories musicales par Pirate Punks, mais je ne vais pas avoir le temps pour me concentrer sur mon propos. En tout cas, ce que je peux dire rapidement, c'est que d'une part, l'affichage se fait hors des espaces prédéfinis, donc un affichage sauvage, pirate, comme son nom l'indique, qu'il y a une grande hétérogénéité d'étiquettes et de genres musicaux, pas du tout punk. Par exemple, là, l'Amiral, c'est un rappeur du centre-ville. D'autre part, qu'il y a une esthétique qui se rapproche de ce qu'on retrouve souvent dans l'esthétique punk, c'est-à-dire une esthétique à un graphisme épuré, en noir et blanc, et même avec une particularité qui consiste à altérer l'intelligibilité de l'événement. C'est-à-dire que souvent, comme vous pouvez le voir sur la fiche de droite, les heures et les dates sont en toutes lettres. On va dire une série de tactiques graphiques qui consistent à brouiller les pistes, brouiller les informations et adopter une forme codifiée. Voilà, bon, je passe, hein, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je veux me concentrer sur mon propos. En tout cas, voilà, j'ai fait un travail sur l'usage des catégories à partir des affiches. Et si les répertoires punk, hardcore, rap, chanson, électro sont majoritairement mobilisés pour étiqueter les sessions pirate punk, bien souvent, les performances musicales dépassent ces principaux modèles génériques de référence. Donc il y a une grande hétérogénéité au niveau esthétique. Tout à l'heure, on a vu Laurent faire du karaoké. Voilà. Bon, deuxième... je vais rentrer sur cette ethnographie. Donc, 2 ans plus tard, parce que là, on était début 2013, en avril 2015... J'assiste à une session pirate punk sur la place Jean Jaurès. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en découvrant les affiches, parce que je faisais un travail d'ethnographie du lieu, vraiment, je me baladais dans le quartier et c'est comme ça que j'ai appris la tenue de cet événement. Donc là, en l'occurrence, c'est rue Mazagran, à côté du squat qui portait le même nom, qui n'existe plus, le squat Mazagran, rue Mazagran, donc dans l'hypercentre, pas loin de la Canebière et du lycée Thiers. Donc j'apprends qu'une session est prévue, donc un samedi, en l'occurrence, alors que c'est souvent le dimanche, mais cette fois c'était le samedi pour des raisons organisationnelles. Donc se tient à 15h30, ou 15h, sur la place Jean Jaurès. Rapidement, donc le collectif Pirate Punks regroupe une petite dizaine de membres réguliers, dont 4-5 sont particulièrement investis. Bon, je ne vais pas dire les noms, ou alors je pourrais dire les noms anonymisés comme dans ma thèse, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Le slogan que j'ai relevé, c'est « Pirate forever, fasciste never ». Les membres évoluent tous et toutes à différents degrés au sein du milieu squat ou de ce que les enquêtés appellent plus souvent les réseaux anarcho-punk, comme ça a été dit par ma collègue précédemment, ou les milieux auto, milieux autonomes. Donc voilà, des stands sont installés pendant au cours de ces rassemblements, des stands, pareil, ça a été évoqué, info-kiosque, information, des stands alimentaires plutôt vegan, voire parfois des stands de fripes. Ces événements, ils sont toujours à prix libre, ce qui peut être interprété par certains comme synonyme de gratuité, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est un souci d'égalité sociale et de liberté individuelle qui consiste à laisser le choix de la contribution aux personnes pour soutenir les luttes, parce que ces événements ont la particularité d'être toujours connectés avec des luttes, des problèmes sociaux, des problèmes publics plus larges. Donc la finalité n'est pas strictement musicale dans ces événements. Voilà, donc j'accélère. Voilà, donc ça c'est les événements, c'est les affiches en question. Donc 18 avril à 15h, donc deux groupes programmés sur la place Jean Jaurès. Donc déjà en faisant mon observation des affiches, je note que ces deux groupes programmés à la plaine étaient programmés la veille à la salle Gueule. Donc ça, encore, là, on est dans une collaboration organisationnelle où la venue du groupe est amortie d'autant plus, ce qui est courant pour les mettre en tournée. Le groupe vient à Marseille, il a deux dates. En l'occurrence, le jour même et le lendemain, donc deux jours de suite. Où j'en suis? Voilà, donc l'affichage. Donc Zeppo, ah oui, c'est donc deux groupes suisses. Zeppo, qui est catégorisé sur l'affiche en tant que groupe Eno-Anarcore. Donc ça, c'est un néologisme, hein, c'est une catégorie qui a été inventée, qui a été créée pour rassembler à la fois éco, à la fois anar et à la fois hardcore ou core. Et deuxième groupe, enfin, en tout cas un solo, c'est Ethnas, qui est lui catégorisé par l'étiquette rap. Sur la plaine, c'est à prix libre. À la salle Gueule, c'était 5 euros. J'arrive à la place Jean Jaurès aux alentours de 15h, donc à l'heure venue, et il y a souvent un décalage entre l'horaire annoncé et le démarrage effectif du concert. C'est pas propre au punk, c'est pas propre à l'espace public, c'est quelque chose de très courant. Mais disons que voilà, ça s'est confirmé ce jour-là. Voilà. Quand j'arrive, donc les agents communaux MPM, donc de la commune, sont encore affairés avec leurs camionnettes de nettoyage parce que le marché a eu lieu peu avant. À ce moment-là, il y a donc un groupe d'une petite dizaine de personnes qui est déjà présente, ce qui est en fait le noyau dur de l'organisation. Je note qu'une voiture est garée en bordure de la place et le matériel est en fait... C'est cette voiture qui a permis d'acheminer le matériel et... les membres commencent à s'affairer, à installer et à sortir le matériel de la voiture. Parce que l'événement n'est pas déclaré et que la présence du matériel technique et sonore dans l'espace public indique immédiatement une possible diffusion de musique amplifiée, l'écart temporel entre l'installation du matériel et le démarrage de la prestation doit être le plus réduit possible. L'ensemble du matériel se compose de trois enceintes, dont une pour le retour, une table de mixage 16 pistes, un égalisateur analogique, un ordi portable, deux micros, un pied de micro, des sacs de câbles, des prises électriques. Et l'équipe dispose d'un groupe électrogène, qu'on peut voir ici, qui fonctionne au diesel. J'accélère. Voilà, une fois que les tables sont installées, que les branchements sont effectués, un des membres démarre le groupe électrogène en tirant, donc avec un cordon, quoi. C'est un démarrage par lanceur pour les connaisseurs. Et quelques secondes plus tard, des personnes qui étaient assises sur le banc se plaignent du bruit. Bon, déjà, ils ont eu du mal à démarrer le groupe électrogène. En tout cas, par cette plainte, on va dire, des personnes qui étaient déjà présentes, un des membres décide d'aller demander au gérant du kiosque à sandwich juste à côté s'il est d'accord de mettre à disposition son accès électrique, chose qu'il accepte immédiatement. Donc on voit directement la capacité de rebondir et de trouver une solution au problème, et en l'occurrence une bienveillance des commerces alentours. Donc cette installation du matériel, elle se fait dans un esprit de camaraderie, de tranquillité apparente, pas de stress. Quand des problèmes se posent, ce qui est très courant dans l'organisation spectacle vivant, ils sont rapidement résolus par des solutions simples, comme s'il était justement admis qu'il est normal que les choses ne se passent pas comme prévu et qu'il fallait faire face à des aléas. C'est toute la portée pragmatique de ces événements qui se perçoit dans sa forme organisationnelle et je dirais même dans la forme sensible de l'espace qui est en train d'être installé. Quand le courant électrique est accessible, un des membres lance une playlist musicale en attendant donc le début des concerts. Donc je passe sur cette playlist musicale, mais c'est une playlist plutôt diversifiée qui mobilise des divers répertoires avec une prépondérance de sonorités produites au cours des années 80-90, du reggae, du ragga jamaïcain, du rap et du punk, en l'occurrence. Ensuite, les balances. Donc là, il est environ 17h. Le concert était annoncé à 15h. Peu avant 17h30, une intervention de la police municipale, alors que les concerts n'ont même pas encore débuté. Donc la police s'arrête au niveau du rassemblement. Tout de suite, plutôt que d'attendre l'intervention des agents à l'endroit du rassemblement, deux membres, ou plus trois, se dirigent immédiatement vers les policiers. À ce moment-là, les policiers sortent de la voiture avec des documents à la main. Ils demandent expressément en premier lieu si les organisateurs ont effectué une demande d'autorisation préalable, ce qui est la démarche conventionnelle et, on va dire, légale, s'ils ont l'autorisation préfectorale et s'ils peuvent présenter les documents. Il s'ensuit un échange calme au cours duquel les policiers passent des appels depuis leur véhicule. Je cite... Le policier, vous avez essayé de baisser les enceintes ? Il répond, nous, tout le temps, il y a les voisins, là, on les connaît tout le temps, tous les week-ends, ça joue bien. Mais vous êtes là, donc vous savez que vous avez une procédure, dès qu'ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas, bah, nous, on est obligé de venir. Rapidement, ils regagnent leur véhicule en indiquant aux organisateurs qu'ils disposent d'une demi-heure pour tout ranger, je cite, et quitter les lieux. Les membres de Pirate Punk les remercient. Et tout de suite, un des membres fait savoir que c'est sans doute un des voisins qui a appelé la police. Il ajoute même, avec le sourire, que en fait, les policiers se trouvaient à l'Estac, loin, et qu'ils lui ont confié qu'ils auraient préféré ne pas avoir à revenir en plein centre-ville, sous-entendu, pour ce genre de choses non prioritaires, pas très importantes. Donc voilà, en tout cas, il y a un voisin qui avait déjà été identifié comme hostile et... les membres pensent bien que c'est lui qui est à l'origine de l'appel. Le concert commence peu avant 17h30. Première partie du concert, enfin en tout cas premier groupe, donc Zeppo, trois musiciens, un guitariste-chanteur, un bassiste et un batteur. Comme souvent, oui, et donc une cinquantaine de personnes se groupent autour de l'espace scénique, qui est un espace scénique... fabriqué, bricolé, sans séparation nette entre l'espace scénique et le reste de l'espace. Donc comme souvent, au départ, les spectateurs affichent une certaine timidité, ils marquent une certaine distance spatiale en se confinant à une zone qui est alors jugée trop lointaine par les musiciens. Etnas prend la parole et dit « Je crois que vous êtes trop loin, il faut vous approcher ». Quelques personnes s'avancent timidement et c'est alors que le concert commence. Bon, je passe, mais le premier titre développe un motif aux accents orientaux. Le batteur est d'abord à la darbouka avant de passer à la batterie. Et ensuite, ensuite Etnas lance des propos en référence avec la Palestine et prend la parole en enchaînant avec son premier couplet. Il formule une critique à l'égard des dirigeants politiques qui exercent le pouvoir en évoquant les effets de leur domination. Je cite, donc là, sur autre chose que la Palestine, ils isolent et m'isolent un peuple qui rationne, les grandes puissances laissent faire, Ich bin ein Berliner, et fait référence aux régions prolifères, zones industrielles, colonies pénitentiaires, avant d'ajouter « Abat le mur de la honte ». Donc là, c'est une référence au mur de Berlin, qui est elle-même une référence anachronique au mur qui sera érigé au même endroit 3 ans plus tard, en octobre 2018. Ensuite, deuxième concert, c'est donc Zeppo qui enchaîne. Dès le démarrage de sa prestation, une personne du public se met à chanter en parallèle de lui, se rapproche de son espace, de l'espace qu'il investit, et perturbe progressivement sa prestation, son set. Alors que des enfants dansent et jouent à côté, donc une femme en train de danser attire mon attention. Elle se meut de manière originale, paraissant totalement transcendée par la musique, en tout cas déconnectée de la situation, indiquant alors une certaine rupture spatiale et temporelle vis-à-vis du rassemblement. Ce comportement correspond à l'idée de prise totale avec la musique et est fortement admis dans ce genre de rassemblement, même dans l'ensemble des performances musicales en général. Le libre cours donné à l'idée de prise totale avec la musique peut engendrer que des attitudes habituellement non admises soient tolérées. À plusieurs reprises, cette participante entraînée dans les mouvements de sa transe va gêner Etnas, qui lui aussi est en mouvement permanent et occupe un périmètre assez important, il se déplace sur une zone assez large. Alors qu'il développe sa performance rappée et qu'il brandit par moments le poing serré en l'air, il manifeste pas de réaction particulière à l'égard de cette participante, sûrement trop concentrée sur son set pour y prêter une réelle attention. Pris dans sa pratique scénique, il vise surtout à s'assurer de la qualité de sa prestation. À chaque fois qu'il y a friction entre lui et cette participante, lorsque leur corps se frôle ou se touche, ou qu'une forme d'obstacle se produit, la participante semble reprendre ses esprits et s'éloigne un moment avant de revenir à la charge. Elle s'approche au maximum d'Etnas et réclame le micro d'un signe de la main. Tout en poursuivant les paroles de son refrain, le rappeur tente de l'éviter et c'est alors qu'elle tente de lui arracher le micro. Il fait un pas en arrière et parvient tant bien que mal à le conserver. Et lorsque son 16, sa prestation se termine, il lui tend le micro. L'instru continue, elle saisit le micro et prononce aussitôt « Nique sa mère, Homer », avant d'exploser de rire. Elle poursuit, elle répète ça à peu près 15 fois, « Nique sa mère, Homer », et elle lui rend alors le micro. À ce moment-là, il la remercie et ajoute « Un grand big up pour les danseurs et pour les backers ». Donc on voit à quel point est-ce qu'il joue avec les ressources de la situation et s'en empare pour donner de l'épaisseur à sa performance par l'improvisation. Malgré plusieurs éléments qui vont potentiellement mettre à mal la performance et perturber le cours de l'action, dans cette situation, le rassemblement n'est pas interrompu, il suit son cours. Les éléments habituellement perturbateurs qui sont difficilement prévisibles et neutralisables, surtout au cours d'une performance où on ne peut pas s'arrêter tout de suite comme ça, ils apparaissent ici comme des ressources pour l'action des performers. Il apparaît que l'ordre de l'interaction, pour reprendre Goffman, qui prévaut ici, en affichant des règles souples, ouvertes, ne correspondent pas à celui qui régule généralement les situations de l'espace public. Goffman parle d'impropriété situationnelle pour caractériser les effets d'une conduite inappropriée dans une situation qui peut témoigner d'une incapacité générale à prendre part dans les interactions en face à face. Ici, les personnes offensées vont évaluer le degré d'intentionnalité et de responsabilité à imputer à l'offenseur. Dans la situation en question, les membres organisateurs et les performeurs ont identifié le caractère altéré de la participante et n'ont pas jugé son comportement suffisamment gênant pour le rassemblement pour décider d'intervenir et de la rappeler à l'ordre. Donc, d'une certaine manière, et je vais bientôt conclure là-dessus, plutôt que de se concentrer sur ce que signifient ces offenses pour l'offenseur, il s'agit plutôt de s'intéresser à ce que ces offenses coûtent au rassemblement et d'une certaine manière à comprendre la forme spécifique de ces rassemblements. Ici, dans cette situation, l'accueil réservé à la participante, donc l'évaluation qui est faite de son comportement, diffère grandement des situations que j'ai pu observer dans mes autres ethnographies. Un premier résultat que je pourrais poser ici consiste à dire que la plaine, parce que ça se passe à la plaine, c'est pas hasardeux, permet à cette forme spécifique de lien social d'être performée au travers de cet événement particulier qu'est la session Pirate Punk. En tant qu'occasion privilégiée, l'événement apparaît comme une épreuve à l'ordre public établi. C'est bien la configuration spectaculaire spécifique de ce rassemblement qui rend possible une situation qui se caractérise par un degré important de tolérance vis-à-vis des comportements définis généralement comme déviants ou gênants. Parce que ces rassemblements se réalisent habituellement à la plaine, c'est-à-dire qu'il y a une habitude, il y en a une série qui se sont organisées à la plaine, on peut dire que cette portion de ville rend possible cette forme spectacle et permet à la fois de performer, mais surtout d'instituer une forme alternative d'un être ensemble et plus largement d'un faire lieu à Marseille. D'une certaine manière, c'est ce que je note, au-delà d'une culture punk, c'est une culture du lieu qui est performée au travers d'un événement punk. Et donc, je rends compte par cette analyse à la fois d'une politique du lieu et à la fois de ces événements comme des pratiques micropolitiques situées. Les conditions de réalisation de cet événement indiquent en creux le cadre symbolique qui soutient la configuration spectaculaire et sensible de ces événements. Il n'y a pas de séparation entre politique et musique. Ça a déjà été évoqué ce matin. S'il est question par ces occasions sociales en plein après-midi, dans l'espace public, de faire advenir à la fois des musiques spécifiques dans la centralité urbaine, de participer à visibiliser des causes politiques, ces événements, ces occasions sociales procèdent de l'appropriation de l'espace commun. Dans ces rassemblements, la dimension politique des musiques est prégnante, dans la mesure où l'enjeu majeur consiste justement à donner et entendre les musiques autant que les causes mentionnées, de les entendre comme centrales et importantes. La spatialité est, selon moi, centrale également, cardinale, pour la félicité de ces événements. Ces événements se déroulent sur la place Jean Jaurès, c'est parce que cette portion est localisée dans la centralité de la ville, et à la fois parce que cette portion est activée grâce à ces événements en tant que ce que Parc appelle une région morale, c'est-à-dire un territoire symbolique qui rend possible justement un dépassement de l'ordre moral habituel dominant, en tout cas. L'occupation de cette portion de ville, de ce quartier, par ce rassemblement, permet de stabiliser l'espace comme un territoire de la culture alternative à Marseille. Cet emplacement permet la mise en visibilité des activités et donc des causes, comme je l'ai déjà dit, défendues ou combattues. Cette configuration permet d'une part de rendre visible une posture de refus de l'ordre établi, du système dominant, et d'autre part de montrer en acte, par l'action, qu'il est concrètement possible de faire autrement que ce que la réglementation prévoit. Je vais terminer en disant qu'un élément prégnant également de ces rassemblements qui est lié, on va dire, à la dimension publique, dans l'espace public, c'est d'élargir le spectre des participants habituels à ces rassemblements. On négocie l'extériorité grâce à ces événements, on dépasse les cercles punk ou les cercles habituels des milieux anarcho-punk, dans la mesure où les passants, les riverains qui passent par là, auront d'une manière ou d'une autre, participer à cet événement. Même s'il s'arrête 5 minutes, même s'il ne s'arrête pas, il me semble intéressant de de comprendre la participation dans une acception étendue. Et donc, la configuration de ces événements est arrimée à une accessibilité spatiale accrue. Contrairement à ce que j'ai pu observer dans l'hypercentre, dans l'espace public, où s'active plutôt une dimension d'anonymat, ici, c'est un espace ouvert, un espace autre, une hétérotopie foucaldienne, où le flux des personnes et des biens est pourtant dense, et où l'intimité s'active en même temps que l'extériorité est négociée. Je termine en disant que cet événement constitue le point de rencontre entre des types de participation divers. Le rassemblement peut conduire à des situations de conflit, du moins à des impropriétés situationnelles, lorsque les comportements sont signifiés et explicités comme non désirés. Qu'en est-il lorsque, malgré le fait que des spectateurs franchissent la frontière symbolique de l'espace scénique et adoptent un comportement qui n'apparaît pas ajusté à la situation, aucune gêne, aucun rappel à l'ordre n'est exprimé? Que se passe-t-il? Cette souplesse situationnelle traduit aussi bien la mise en scène publique d'une valeur défendue, la tolérance vis-à-vis de l'extériorité, et donc face aux écarts de comportement. C'est bien un type de lien social qui est performé par ces rassemblements, qui est bricolé, arrangé, et qui passe par la configuration d'un espace et par une scène d'apparition publique au sein du centre-ville, caractérisée par une accessibilité et une ouverture accrue. Je terminerai en disant que actuellement la plaine et la place Jean Jaurès subit une transformation urbaine drastique, et ça pose la question, est-ce que si on transforme la surface matérielle du lieu, est-ce que ça supprime la possibilité de maintenir un lien social qui s'y est institué depuis les années 80? Merci.
Alors merci beaucoup Rémi pour cette très belle communication également. Alors je ne suis pas sociologue, donc je ne vais pas pouvoir dialoguer aussi précisément que je voudrais avec toi. Ce qu'on peut quand même souligner par rapport à la communication de Julie, c'est qu'on a deux réponses différentes à une même question, qui est celle de l'articulation du chercheur en sciences humaines et du punk. Et donc là, ce que tu nous as proposé, c'est une sociologie de la plaine, ou du punk à travers la plaine. Alors, tu nous as proposé des conclusions, tu nous as fait part de tes conclusions qui étaient des résultats, merci. Voilà, le terme scientifique, donc les résultats, normalement, donc une forme de compréhension, donc une forme alternative qui cherche à faire du lien, il y a la notion de participation. On voit qu'on a quand même la volonté avec ton travail de recherche de procéder à un changement de l'historiographie. C'est-à-dire qu'on ne pense plus le punk par rapport à ces espaces clos comme le club, ce qu'on pensait, jusqu'à présent être peu ou prou l'historiographie du punk ou de la plaine. Donc il y a un changement historiographique de ce point de vue-là. Donc peut-être une question comparative, parce que tu parlais de tes autres champs de recherche. Est-ce que tu peux peut-être... Comment ? Oui, alors voilà, revenir sur la méthode.
L'observation directe, madame. L'observation directe.
Du coup, pourquoi ce choix-là? Pourquoi l'observation et pas...
Et pas quoi?
Des entretiens, par exemple?
J'ai fait 90 entretiens.
Ok.
Par ailleurs. Pourquoi? Parce que...
90 entretiens avec deux... Ouais, ok.
Tu veux que je fasse la liste?
Alors non, les noms, non, pas plus que les photos, tu vois, non quoi, mais voilà, j'aimerais bien comprendre, en fait, vas-y, explique-moi ta démarche.
Alors
recherche.
Ma démarche, c'est de faire un pas de côté vis-à-vis de la musique, en appréhendant les musiques par la ville, et la ville d'une manière écologique. Donc là, on va dire que je fais référence à l'écologie urbaine, mais l'idée, c'est de partir d'une ethnographie du lieu, en l'occurrence au centre-ville de Marseille, de comprendre d'une certaine manière la production perceptive de la ville, c'est-à-dire qu'est-ce que produit au niveau sonore, au niveau visuel, au niveau olfactif la ville, donc liée on va dire à son architecture et à la présence des personnes et des interactions sociales, et de comprendre la musique comme comprise dans cet ensemble plus large qui est la production sonore de la ville. Ça, c'est la première chose. Et par rapport à la plaine, l'idée, c'est voilà, de faire un pas de côté, on va dire, vis-à-vis d'approches qui sont centrées sur des genres musicaux qui peuvent avoir parfois le défaut de penser, on va dire, ces mondes comme des mondes cohérents, souvent un peu hors sol, comme existant de manière évidente.
S'il y a beaucoup de musique sur la plaine, c'est pour des raisons politiques. Alors du coup, je me demande pourquoi est-ce que... Enfin, tu parles très peu de ça, quoi.
De quoi ?
Eh ben, pourquoi est-ce qu'il y a autant de musique sur la plaine pour des
Alors,
raisons
d'accord, si je pourrais
politiques
parler de l'histoire.
Aussi, enfin, c'est... T'as parlé vite fait à la fin, là, de... Enfin, bref.
Mais j'ai l'impression que t'as la réponse.
Mais j'ai pas de réponse.
D'accord. En tout cas, des raisons politiques, je sais pas, des raisons historiques, oui. Le transfert du marché de Gros en 1972... qui était donc il y en avait un sur le marché sur le cours Julien, un sur la place Jean Jaurès, transfert en périphérie aux Arnavaux, donc ça libère un espace énorme de locaux en fait qui servaient au marché et qui d'un coup n'ont plus de raison d'être étant donné qu'il n'y a plus de marché. Le marché était, enfin la plaine était structurée par ce marché. Hein, la vie sociale de la plaine avant 72, c'est le marché, c'est le ventre de Marseille. Et donc petit à petit, la mairie de Marseille, comme d'habitude, n'a pas de projet clé en main et d'idées, de vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire de ce quartier, même si il y a certaines choses. Il y a l'installation de l'espace Julien au cours Julien en 84. Il y a l'installation du métro Notre-Dame-du-Mont à ce moment-là. Il y a les fontaines sur le cours Julien, mais sur la place Jean Jaurès, pas grand-chose. Donc, petit à petit, on va dire que moi, comme on m'a raconté l'histoire, les propriétaires des locaux qui servaient au renfermage, qui servaient à la vie du quartier, commencent à flipper de ne pas pouvoir relouer leurs espaces. Donc, abaissement du prix, les prix deviennent bon marché, permettant à beaucoup de personnes de s'emparer de ces espaces et de faire des cafés, des bars, des restos, des cafés-concerts. Donc, là, Maison Hantée, je pense que vous connaissez, enfin, en tout cas, cette histoire, la Maison Hantée à partir de 85, la Passerelle, le Bar de la Plaine... Enfin, tout un ensemble de lieux qui se concentrent dans cette zone. Et je pense que ça, c'est le point de départ de pourquoi est-ce qu'une scène musicale, au sens où je l'entends, c'est-à-dire une scène urbaine des musiques, émerge à cet endroit-là. Donc, politique, oui. Oui, il y a une dimension politique. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps. Et j'essaie d'axer mon propos sur le présent.
C'est juste axé sur les musiques, on est d'accord. Enfin, tu vois, mais...
Il y a une question encore. Tout à l'heure, j'ai cité pas mal de personnes qui faisaient des affiches et j'ai complètement oublié, pardonnez-moi, de parler des affiches des Pirate Punks. Là, tu nous as montré une sélection d'affiches en noir et blanc, mais je trouve que c'est pas du tout représentatif de leurs affiches, qui pour moi sont les meilleures d'affiches de concerts qui sont faites sur Marseille, qui sont souvent sérigraphiées sur du craft ou sur du papier en 3-4 passages couleurs. C'est un sacré boulot, c'est magnifique, les dessins sont superbes. Et ouais, c'est dommage qu'on en ait pas vu plus. Et je serais curieux de savoir d'ailleurs qui les réalise. Mais je n'aurais sûrement pas la réponse.
Peut-être que quelqu'un le sait dans cette salle, à moins qu'il soit sorti. Mais j'ai l'impression que sur les affiches de Pirate Punks, il y a une progression, pas dans le sens hiérarchisé de la chose, mais une mutation. Parce que les premières affiches sont tout le temps en noir et blanc, avec un style très épuré. Et au fil du temps, on trouve plus d'affiches comme ça. À ma connaissance, les affiches les plus récentes, c'est-à-dire celles de 2017, 2018, 2019, sont toujours en couleur, sérigraphiées, etc. Même avant, mais je veux dire, il y a... Depuis le départ aussi ? Ok.
On a une autre question ?
Ouais. Alors, bon, merci pour les présentations et celles qui viennent d'avoir lieu. Moi, j'ai une question, alors, je ne sais pas si on a les réponses, justement, mais... En fait, quand même, ce matin, on avait une présentation d'un mouvement punk qui était, dont le mot d'ordre, en fait, un peu, non pas unique, mais en tout cas, dont certains revendiquaient qu'il était le mot d'ordre unique, c'était la rupture, le nom, quoi, voilà, une espèce de truc de rejet, quoi, d'un ordre existant, mais sans qu'on perçoive vraiment une politisation explicite dans la façon dont c'était présenté, au moins, et certains d'ailleurs le revendiquaient ici, dans les témoins qui ont pris la parole. Et puis. Là où, dans ce que vous avez présenté, la dernière présentation, puis dans le l'interview sans interviewer avec avec son William, on voyait plutôt justement un truc aussi assez voilà assez politisé. Puis dans la présentation que Julie Abou a faite tout à l'heure aussi, voyez, il y avait une volonté, en tout cas un discours sur la politisation de du punk, enfin du mouvement punk. Et du coup, ma question, c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez les réponses, je ne sais pas si quelqu'un l'a. C'est, est-ce qu'il y a une rupture historique là-dedans, c'est-à-dire est-ce que le mouvement du coup, des années 70, soit, dont on parlait ce matin, est-ce qu'il était du coup moins explicitement politisé au sens où on le voit là, est-ce que c'est une rupture historique? Et puis deuxième question qui est là, est peut-être plus sur la est-ce qu'il y a une évolution historique, disons, et sur la dernière présentation, ma question c'est qui les acteurs? Moi j'ai une question, mais bon alors, moi je suis sociologue et je m'intéresse énormément évidemment aux situations, au contexte social et du coup aux positions sociales des acteurs qui font. Et là moi il y a une question qui me vient quand même, qui me paraît assez évidente, c'est-à-dire que il y a quand même, justement par cette politisation, par les textes que vous citiez ce matin de Lunch, bon, etc., c'est-à-dire vraisemblablement un capital culturel relativement élevé, en tout cas un investissement dans la cité qui dépasse largement justement le cas du refus, bon, etc. Le fait que ce soit à la Plaine est sans doute pas anodin. Vous avez donné quelques éléments sur le quartier, moi j'y vis mais je le connais pas très bien scientifiquement, mais ce que je sais par contre c'est qu'il est quand même particulier du point de vue sociologique justement. C'est un quartier où on a un niveau de diplôme assez élevé, un niveau de revenu relativement peu élevé, c'est-à-dire c'est les classes moyennes intellectuelles, quoi, pour faire extrêmement vite. C'est ça, quand tu regardes par exemple l'intérieur du 6e, t'as une grosse rupture entre Castellane où t'as la bourgeoisie économique et puis la bourgeoisie culturelle, disons, pour là aussi faire vite, plutôt pleine courge. Bon, voilà, je fais vite, mais est-ce que ça correspond à ça? C'est-à-dire est-ce qu'on a ces acteurs-là, ce qu'on voit se mouvoir, organiser des concerts, organiser des choses qui sont en solidarité avec les migrants, ce genre de trucs-là, ou contre la police, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer, y compris par des facteurs sociaux, par des positions sociales de ces acteurs-là, de niveau de diplôme, d'origine sociale aussi, voilà, d'où ils viennent, quoi? Est-ce que c'est les classes hyper populaires? Est-ce que c'est le prolétariat? Ou est-ce que, moi, mon hypothèse est plutôt que c'est plutôt là aussi des gens déclassés, mais hypothèse, j'en ai aucune idée, hein. Mais plutôt diplômé, quoi, voilà, ou d'origine sociale plutôt favorisée en termes de culture, quoi, voilà. Voilà, j'en sais rien, okay. C'est vraiment des questions. Voilà.
Pour la première question, je laisserai répondre Julie, si elle est d'accord.
Moi, j'ai une réponse complètement partiale. C'est en fait que ça a toujours coexisté, je pense, les deux. Mais surtout qu'en fait, c'est pas qu'il y a eu une rupture politique, pas politique, c'est juste qu'il y a des gens qui étaient un peu borderline côté facho et qui ont toujours dit nous on n'est pas politique, et qu'en fait nous on leur a toujours dit si vous êtes aussi politique, c'est juste qu'on n'est pas au même endroit, quoi. Voilà, après chacun se définit un peu où il veut, mais je te répondrai comme ça, quoi.
Et pour la deuxième question, alors moi j'ai pas du tout une approche déterministe bourdieusienne, entre guillemets, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait une thèse de sociologie, pas une thèse bourdieusienne pour autant, mais qui aurait peut-être plus d'éléments. Moi c'est vrai que j'ai pas travaillé. Moi, mon approche, justement, elle vise à ne pas partir de l'espace social pour appréhender les acteurs, mais partir des situations et de l'écologie du lieu. Donc, j'ai vu des statistiques sur le quartier, j'ai fait des entretiens avec des personnes, notamment Alessi Dellumbria, par exemple, parce qu'il m'a beaucoup parlé de ce qu'il appelle un quartier ambivalent, sociologiquement, où il y a toujours eu des bourgeois et des prolos, d'une certaine manière. Pardon ? Oui, à la plage aussi, ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça. Ouais. Voilà, je travaille sur la Plaine, donc je me suis intéressé aux pirates punks à la Plaine, mais il n'y a pas que des pirates punks à la Plaine, bien sûr. Mais pour revenir à la question, voilà, d'après mon enquête, comme je t'ai dit, moi c'est périphérique cette question pour moi, mais de ce qu'on m'a dit dans les entretiens, c'est un quartier à la fois ambivalent sociologiquement et surtout clivé. Et ça, à la limite, je l'ai retrouvé, ça. C'est-à-dire que les positions, mais là, je ne parle pas de position sociale, je parle de position politique, face aux événements, face aux grands projets urbains, face aux décideurs politiques, c'est très clivé à Marseille et à la Plaine, notamment, entre, on va dire, d'un côté, le CIQ, pour prendre un peu des symboles de ça, le comité d'intérêt de quartier, ou, on va dire, voilà, des entités qui ont à voir et qui soutiennent les démarches de la mairie, donc qui sont plutôt de droite, plutôt conservateurs, etc. Et de l'autre, ce qui serait, on va dire, vu que j'ai dit CIQ, l'autre côté, bah, ce serait l'Assemblée de la Plaine, un collectif d'habitants et d'habitués du quartier, qui, en l'occurrence, effectivement,
d'après un peu mon enquête, même si encore une fois c'est périphérique cette question, effectivement ce sont des personnes qui ont un capital culturel assez élevé, qui viennent de milieux qui ne sont pas des milieux prolétaires ou ouvriers purs, même s'il y en a dedans, mais qui ont une culture politique et une culture du militantisme importante. Voilà, pour répondre rapidement.
Oui, donc, merci beaucoup Rémi. Il y avait une...
Oui, moi, ce n'est pas une question par rapport à ce que vous
une
avez...
Dernière, un dernier commentaire, s'il vous plaît.
Un dernier commentaire par rapport à ce que vous avez dit à la fin de votre exposé, par rapport au devenir de la musique sur la plaine et sur la place Jean Jaurès. Il se trouve que je passais dimanche dernier sur la place et qu'il y avait un groupe avec des amplis, etc. Alors, c'est dire que c'était des punks ou je n'en sais rien. De toute façon, moi, c'est ce genre de musique qui me fait fuir. Mais je peux vous dire qu'il y avait un groupe et il y avait des gens autour. Il y avait des gens qui faisaient de la musique, donc j'ai l'impression qu'il y a de l'avenir et que bien qu'il y ait eu des changements à la plaine, il y aura toujours de la musique et des gens qui pourront s'exprimer. Voilà.
Merci pour cette note d'espoir.
On pourra peut-être laisser ton commentaire dans le...